travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique. Et mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être à cap depuis le 18 juin.
La tradition a conservé plusieurs descriptions de la personne de Mohamed. Il était porté à la mélancolie. Pourtant, il ne se reposait jamais et était toujours occupé. Il pouvait parfois se montrer sévère, mais c'était en général un homme doux, sans aucune brutalité.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage. Les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Plus de 4 ans après la tragédie de Charlie Hebdo, l'effet de sidération perdure. La mémoire de ce crime n'incite pas seulement à réaffirmer que le droit au blasphème demeure en France au cœur de la laïcité et de la liberté d'expression. Elle conduit aussi à rappeler que les récentes caricatures de Mahomet n'ont pas été, dans l'ensemble, dirigées directement contre sa personnalité même, mais contre les dévergondages cléricaux et haineux d'une partie de ses fidèles. On est amené par là à s'interroger à nouveau frais sur la chronique de ce qu'on a dit et de ce qu'on a pensé pendant des siècles du prophète en Occident. Ce sera pour constater, comme vous allez le voir, que son image y a été instrumentalisée d'âge en âge afin de servir, entre angoisse et fascination, des desseins, des passions, des combats souvent peu soucieux de la réalité de son épaisseur historique. Mais aussi qu'au cours des siècles, beaucoup de bons esprits ont été portés selon des tonalités et pour des raisons diverses à dépeindre Mahomet de façon très favorable. Le XIXe siècle romantique s'étant distingué à cet égard. Nul doute que l'évocation de cette longue diversité puisse être féconde, car elle est destinée à protéger, quitte à en surprendre beaucoup, contre des simplifications contemporaines qui risquent d'être ravageuses pour un avenir unifié et pacifié de nos communautés nationales. John Tolan, professeur à l'Université de Nantes, vient de nous offrir un livre qui s'intitule « Mahomet l'Européen » et qui est sous-titré « Histoire des représentations du prophète en Occident ». Nous allons faire fond sur ses recherches et sur sa compétence pour nous aventurer dans un domaine qui est décidément, comme chacun peut l'éprouver, d'une grande importance contemporaine. Et pour ouvrir notre conversation, je vais vous proposer une lecture d'un texte d'un historien écossais, William Montgomery Watt, qui remonte au mi-temps du XXe siècle. Vous nous direz ensuite, John Tolan, si vous le voulez bien, comment resituer cette œuvre dans le mouvement général des sensibilités quant à notre sujet. Le lecteur est l'excellent Paul-Émile Deybert, sociétaire de la Comédie-Française.
Mohamed possédait en particulier 3 grands dons, chacun indispensable à l'ensemble de l'œuvre. Il y a d'abord son don de voyant. Par lui, ou selon l'orthodoxie musulmane, par les révélations qui lui furent faites, le monde arabe fut doté du cadre idéologique nécessaire à la résolution des tensions sociales. Pour créer cette structure, il fallait à la fois une connaissance profonde des causes fondamentales du malaise social existant et le don d'exprimer cette intuition sous une forme qui remue l'auditeur au plus profond de son être. Le Coran déconcerte peut-être le lecteur européen, mais il était admirablement adapté aux besoins et aux conditions de l'époque. En deuxième lieu, il y a la sagesse de Mohamed, homme d'État. Le Coran n'était qu'une charpente qui devait soutenir un édifice de politiques concrètes et d'institutions également concrètes. On a déjà beaucoup parlé ici de la clairvoyance politique de Mohamed et de ses réformes sociales. Sa sagesse en ce domaine se révèle par la rapide expansion de son petit État en un empire à l'échelle mondiale et par la façon dont les institutions sociales qu'il créa se sont adaptées à tant de milieux différents et subsistent encore après 13 siècles. Enfin, en troisième lieu, il faut mentionner l'habileté et le tact de l'administrateur, sa sagesse dans le choix des hommes entre lesquels répartir les tâches administratives. Des institutions solides, une politique saine, n'iront pas loin si l'exécution est défectueuse et maladroite. Quand Mohamed mourut, l'État qu'il avait fondé était une affaire qui marchait, capable de soutenir le choc de sa disparition et, une fois remise de ce choc, de se développer avec une rapidité prodigieuse. Plus l'on réfléchit à l'histoire de Mohamed et de l'islam primitif, plus l'on est confondu par l'amplitude de son œuvre. Sans doute les circonstances lui fournirent-elles une occasion telle que peu d'hommes en ont trouvé de semblable, mais l'homme lui-même était à la hauteur des circonstances. Sans ses dons de voyant, d'homme d'État et d'administrateur, étayé par sa foi et la ferme conviction qu'il était l'envoyé de Dieu, un chapitre prestigieux de l'histoire de l'humanité n'eût pas été écrit. J'ai l'espoir que cette étude de sa vie aura permis de porter un jugement nouveau sur l'un des plus grands parmi les fils d'Adam.
John Tolan, bonjour.
Bonjour, Jean-Noël Jeannanet.
C'était un extrait de l'émission Analyse Spectra de l'Occident de Serge Jouet, le 17 janvier 1959. Le livre vient de paraître, celui de Watt. Est-ce que, avec la distance de plus d'un demi-siècle, John Tolan, vous pouvez nous situer cette œuvre? On ne peut pas dire qu'il soit agressif à l'égard de Mahomet.
Non, au contraire, pour lui, Mohamed, c'est le... à la fois un voyant, un homme d'État, administrateur, et on voit que Montgomery Watt, dont la biographie du prophète en deux tomes était un des grands œuvres d'érudition dans la matière au milieu du XXe siècle, il écrit surtout l'histoire d'un homme d'État, et il admire sa sagesse, et donc c'est surtout pour amener les Arabes vers l'unité politique et vers le progrès social que le prophète aurait travaillé. Et en disant cela, Montgomery Watt fait partie d'une tradition déjà longue de deux siècles, parce que depuis le XVIIIe siècle, on voit le prophète comme un réformateur et un grand législateur.
Donc on l'instrumentalise d'une certaine façon contre d'autres.
Oui, absolument. Et pour Montgomery Watt, c'était aussi un prêtre, un pasteur protestant,
d'important,
qui était très engagé dans le dialogue avec l'islam, et il voulait que les chrétiens reconnaissent Mohammed comme un prophète.
Eh bien, c'est ce qui frappe tout au long de l'histoire que nous allons considérer ce matin, c'est qu'évidemment, ce n'est pas une surprise, mais c'est un fait. Le point de vue de ceux qui regardent en Occident la personnalité de Mahomet est profondément marqué par les combats qui se déroulent en Occident.
Oui, souvent on parle de l'islam et on parle du prophète pour parler des choses beaucoup plus proches, pour parler des questions qui agitent l'Europe.
Pour commencer, à vrai dire, dans les premiers temps, les chrétiens sont négatifs. Si on remonte à l'époque, par exemple, de la chanson de Roland,
oui.
Mahomet est un personnage extrêmement sombre, il honorerait même trois dieux en fait.
Oui, absolument, les Sarrasins ennemis des chevaliers francs dans la chanson de Roland et dans d'autres chansons de gestes adoraient une espèce d'anti-trinité d'idoles, Apollon, Tervagan et Mahomet. Donc oui. Mahomet était un de leurs idoles.
Oui, nous connaissons Mahomet et Apollon, mais nous ne connaissons pas Tervagan.
Oui, Tervagan, personne ne sait exactement d'où vient ce nom.
Ah, vous me décevez, là.
Il y avait des articles différents érudits pour essayer de comprendre l'étymologie de ce nom, mais pas de réponse définitive.
Nous laisserons donc avec chagrin nos auditeurs dans l'incertitude. Et d'autres prêtres qui écrivent, je pense à Guibert, par exemple, ou à Pierre Alphonse, sont évidemment systématiquement hostiles à un homme qu'ils présentent comme un imposteur.
Oui, Pierre Alphonse, qui est un juif andalou de l'Espagne musulmane, converti au catholicisme et ensuite qui a écrit des œuvres polémiques contre le judaïsme et l'islam. Et il s'inspire des textes des chrétiens arabes pour présenter effectivement Mahomet comme un faux prophète et l'islam comme une espèce d'hérésie.
C'est un truqueur en fait, Mahomet. Je vois que Laurent de premier fait, oui c'est comme ça qu'il s'appelait, Laurent de premier fait, au début du 15e siècle encore, expliquait que c'était une sorte de prestidigitateur. Il avait truqué par exemple une visite de la colombe.
Oui, tout à fait. Là, il reprend des choses du XIIe siècle, comme quoi Mahomet aurait dressé une colombe à manger des graines dans son oreille. Et quand cette colombe vient, il annonce aux auditeurs étonnés qu'il s'agit de l'ange Gabriel venu faire une révélation. Et grâce à des faux miracles comme ça, il arrive à tromper les Sarrasins ou les Arabes qui vont l'accepter comme prophète.
L'arrière-fond du tableau, ce sont évidemment les croisades.
Absolument. Et pour Guibert de Nogent, qui est effectivement un moine qui écrit une histoire de la première croisade, victoire glorieuse évidemment, de son point de vue, l'hérésie des Sarrasins, en quelque sorte, justifie la croisade. C'est contre ces hérétiques qui avaient souillé la ville sainte de Jérusalem, qui se dirige l'armée de Dieu.
Donc on parle de l'erreur sarrasine. Il y a une caricature à la fois bigarrée et surprenante de Mahomet qui a un franc succès parmi les Européens dans toute cette littérature. Mahomet, ce n'est pas du tout une idole en or qui rappellerait les dieux de l'Antiquité gréco-romaine, comme certains ont tendu à le dire, mais c'est une crapule dépravée, hérétique, qu'il faut inscrire dans la ligne des faux saints des hérésiarques.
Oui, tout à fait. Il serait le dernier, le plus dangereux des hérésiarques pour certains auteurs. Et on l'affuble de faux miracles. Même un assez étonnant miracle posthume qu'il aurait fait. On dit que quand il est mort, donc on l'a mis dans un sarcophage en fer. On a mis ce sarcophage dans un temple à la Mecque avec des aimants dans le plafond. Et donc le sarcophage flotte en l'air. Et on trouve ces histoires, donc déjà au XIIe siècle, chez certains auteurs latins, et ensuite ils sont répétés tout le Moyen-Âge. Et bien au-delà, on trouve même sur des atlas, des maps mondes du XIVe et jusqu'au XVIe siècle, à la Mecque, on voit la tombe flottante de Mahomet.
Oui, on trouve à travers les siècles ce fatras d'accusations qui réémerge dans la bouche d'un certain nombre de leaders de l'extrême droite. Par exemple, je vois que ce Geert Wilders, qui est député du parti de l'extrême droite néerlandaise, pour discréditer l'islam dans son ensemble, s'en prend directement à Mahomet en le traitant de terroriste, de pédophile, de psychopathe, etc.
Absolument. Donc, c'est des choses qui ont encore des échos aujourd'hui.
Ça veut dire qu'il y a un potentiel explosif dans les représentations du prophète du côté de ceux qui le détestent.
Absolument. Et on voit ces faux miracles qu'on racontait dès le Moyen-Âge. C'est des fake news ou des infox de l'époque. Et malheureusement, les infox, on sait, ça marche très bien au Moyen-Âge comme aujourd'hui.
Alors, il est urgent de s'interroger sur le moment où les choses vont commencer de basculer, où un certain nombre de voix dans un climat, dans un contexte complètement différent que celui des croisades vont modifier, dans un sens d'ailleurs favorable, l'image du prophète. Je voudrais que vous nous expliquiez ça, John Tolan.
On voit ça déjà un peu là, au XVIe siècle, au moment de la réforme protestante, où il y a une espèce de triangulation, si j'ose dire, où on a Luther, par exemple, qui affirme que le diable du pape est plus grand que le diable du turc, et on commence à relativiser et à même utiliser la lecture du Coran et l'image du prophète pour discréditer ses rivaux. Ses rivaux, on va comparer, du point de vue catholique, on va comparer Mahomet avec Luther ou Calvin pour dire que finalement, Mahomet n'était pas si mauvais que ça. Et inversement, on va dire, comme disait Luther, Mahomet était un saint comparé au pape. Et ça va donner un certain relativisme, si vous voulez. Et même, il y a une traduction de Coran qui a été faite en 1142 par un certain Robert de Ketten, un Anglais, qui était embauché par Pierre le Vénérable, abbé de Cluny. Cette traduction qui circulait en manuscrit au Moyen-Âge est imprimée à Bâle en 1543. Luther écrit une préface à cette traduction latine du Coran pour dire qu'il faut faire connaître à tous les mensonges de Mahomet que c'est la meilleure manière de combattre le Turc.
Et de combattre les catholiques aussi.
Oui, mais effectivement aussi de combattre les catholiques.
Chaque camp dit que l'autre est encore pire que les mahométans.
Tout à fait, tout à fait.
Alors vous faites surgir dans votre livre sur Mahomet en Occident, faites surgir un personnage fort intéressant. Là, on en est déjà au XVIIe siècle, qui est Henry Stubb. Je voudrais que vous nous le situiez parce que son apport est majeur dans cette histoire.
Oui, en 1671, il écrit « The Original and Progress of Mahometanism ». C'est une biographie du prophète avec une histoire des débuts de l'islam. Et lui qui était républicain, donc il faut situer ça effectivement dans l'histoire du XVIIe siècle anglais, où il y a eu la guerre civile, donc avec la mise à mort du roi Charles Ier, et ensuite la restauration de la monarchie, donc en 1671, quand il écrit, Henry Stubb présente Mahomet comme un modèle des héros anticléricales. Mahomet aurait compris que, à son époque, l'Église était corrompue, qu'il y avait tant de superstitions, le culte des saints, la Trinité, que surtout il y avait une clergé corrompue qui utilisait son savoir pour affirmer son pouvoir sur le peuple.
Suivez mon regard, c'est-à-dire qu'il s'agit des anglicans.
Tout à fait. Et donc pour Henry Stubb, critiquer l'Église anglicane et la relation entre l'Église et le roi directement n'était pas possible. Mais mettre ça sous la forme d'une présentation positive de Mahomet anticlérical était tout à fait possible.
Il loue tous les piliers de la religion mahométane, il salue le prophète, il y a l'idée du pèlerinage, du jeûne, de l'aumône, de l'obligation de prier, la sobriété, la discipline. Notre Stubb est presque mahométan.
Tout à fait.
L'écrit de Mahomet, vous allez voir, l'image a complètement changé par rapport au siècle précédent. C'est un homme hors du commun. Il est doué d'une âme noble. Il avait, dit-il, une physionomie grave où la grandeur de la majesté était tempérée par cette admirable douceur qui inspirait aussitôt à ceux qui l'observaient à la fois respect, révérence et amour. Et il ajoute, les Arabes le comparent à l'onde la plus pure, l'onde d'une rivière au cours tranquille et gracieux qui arrête et réjouit l'œil de tout passant. Fin de citation.
Tout à fait. Il s'inspire de la tradition musulmane dans ce dernier passage. Il avait étudié l'arabe avec Edmund Pocock, un grand professeur à Oxford. Et il est ainsi le premier à présenter le prophète de manière si positive. Le premier européen chrétien, je voulais dire.
Les guerres de religion, de ce point de vue-là, ont eu pour l'image de Mahomet des conséquences positives, peut-on dire?
On peut, oui. Parce que c'était toujours possible, bien entendu, d'attaquer le prophète comme un imposteur. Mais finalement, on s'acharnait plus contre l'imposteur plus proche, le catholique du point de vue protestant ou inversement.
Alors arrivons, si vous le voulez bien, à ce XVIIIe siècle qui va continuer le mouvement de positivisation, si je peux dire, de la figure de Mahomet en Occident. Et à cet égard, il faut d'abord citer Henri de Boulainvilliers. Nous sommes à la maison de Radio France et juste à côté, il y a la rue de Boulainvilliers. Donc, c'est une bonne façon de l'honorer.
Tout à fait. Donc, Henri de Boulainvilliers a écrit, a publié en 1731, en fait, il a publié l'année après sa mort, sa vie de Mahomet, dans laquelle, tout à fait de la même manière que Stubb, il présente le prophète comme un grand héros anticlérical, quelqu'un qui avait compris que l'Église était corrompue, que l'Église était dans les mains des prêtres et des moines qui manipulaient leur savoir pour s'enrichir et pour affirmer les pouvoirs sur des masses ignorantes. Et Mahomet donc avait aboli le pouvoir de ses clercs, avait aboli les superstitions qui affublaient le christianisme à l'époque et avaient réinstauré une relation directe entre Dieu et le fidèle.
Il faut rappeler que Boulainvilliers était très hostile au monde qui entourait le roi. Il considérait qu'il fallait promouvoir l'aristocratie dont il était contre la centralisation. Et on retrouve du coup dans l'évocation des combats positifs de Mahomet une similitude. Il dit que Mahomet regardait les évêques, les prêtres et tout le clergé séculier comme un assemblage politique d'hommes réunis à ce point-ci de faire servir la religion à leur passion, convoitise, avarice, faste et domination.
Oui, absolument. Pour Boulainvilliers, l'aristocratie était les descendants des Francs qui avaient imposé leur droit de conquérant sur la paysannerie qui était donc gallo-romaine. Et donc, il fallait une égalité, un système d'égalité au sein de cette aristocratie d'ascendance franque. Et donc, c'est cette même société qu'il imagine, donc Mahomet qui installe cette espèce de démocratie dans cette aristocratie guerrière.
Et nous avions évoqué, naguère, la figure de Boulainvilliers, tenant de cette thèse, au cœur d'une émission consacrée au débat sur l'identité historique de la France. Mais restons, si vous le voulez bien, John Tolan, restons du côté de Mahomet et venons-en à un personnage qui a compté dans l'image, en France en tout cas, et au-delà à vrai dire, de Mahomet, c'est-à-dire Voltaire, puisqu'il a consacré une pièce en cinq actes et en vers, Le fanatisme ou Mahomet le prophète, en 1736. Nous allons voir qu'il était beaucoup plus nuancé que cela ne peut apparaître d'abord, et nous allons essayer de comprendre pourquoi. Il s'agit ici de Mahomet qui s'exprime, qui s'adresse à Zopir, qui est le chef de la Mecque. Il souhaite pouvoir mettre la main sur la Mecque et en faire une ville sacrée. Je signale que Palmyre, qui passe dans le texte, ce n'est pas la ville, c'est la fille de Zopir que Mahomet songe à épouser.
Connais mes fureurs et toutes mes faiblesses. Tu sais assez quel sentiment vainqueur parmi mes passions règne au fond de mon cœur. Chargé des soins du monde, environné d'alarmes, je porte l'encensoir et le sceptre et les armes. Ma vie est un combat et ma frugalité a servi la nature à mon austérité. J'ai banni loin de moi cette liqueur traîtresse qui nourrit des humains la brutale mollesse. Dans des sables brûlants, sur des rochers déserts, je supporte avec toi l'inclémence des airs. L'amour seul me console. Il est ma récompense, l'objet de mes travaux, l'idole que j'encense, le dieu de Mahomet. Et cette passion est égale aux fureurs de mon ambition. Je préfère en secret Palmyre à mes épouses. Conçois-tu bien l'excès de mes fureurs jalouses, quand Palmyre à mes pieds, par un aveu fatal, insulte à Mahomet et lui donne un rival. Je tiens entre mes mains et leur vie et leur mort. Tu n'as qu'à dire un mot et je t'en fais l'arbitre.
Moi, je puis les sauver. À quel prix? À quel titre? Faut-il donner mon sang? Faut-il porter leur fer?
Non. Mais il faut m'aider à tromper l'univers. Il faut rendre la Mecque. Abandonner ton temple. De la crédulité, donner à tous l'exemple. Annoncer l'Alcoran aux peuples effrayés. Me servir en prophète et tomber à mes pieds. Je te rendrai ton fils et je serai ton gendre.
Mahomet, je suis père et je porte un cœur tendre. Après 15 ans d'ennui, retrouver mes enfants, les revoir et mourir dans leurs embrassements, c'est le premier des biens pour mon âme attendrie. Mais s'il faut à ton culte asservir ma patrie ou de ma propre main les immoler tous deux, connais-moi, Mahomet, mon choix n'est pas douteux. Adieu.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
La résolution de Zopir est claire, vous allez nous dire ce qu'elle est. Auparavant, je signale que la lecture est de Michel Etcheverry, très notoire et remarquable sociétaire de la Comédie-Française. Elle était faite le 20 octobre 1963. J'ai encore dans l'oreille Etcheverry jouant Don Diègue magnifiquement dans le Cid. D'un mot, comment l'intrigue s'est-elle terminée? Où nous conduit-elle?
Alors, elle conduit à la mort de Zopir, de ses deux enfants, et à la victoire de Mahomet, le fanatique, qui utilise sa religion pour affirmer son pouvoir et pour devenir chef de la Mecque et évidemment ensuite pour entamer les conquêtes. Une histoire que Voltaire a inventée de toutes pièces. Voltaire souhaitait dénoncer surtout le fanatisme de l'Église catholique. Il avait en tête, disait-il, dans des lettres à des amis, la massacre de Saint-Barthélemy.
Personne ne s'est trompé, me semble-t-il, à Paris, quand on a joué la pièce, sur ce qu'était vraiment la cible de Voltaire.
Je ne pense pas, mais ça a passé la censure, au moins.
Il faut dire, pour être à la fois précis, juste, équanime, que Voltaire, en fait, avait déjà de l'admiration pour Mahomet et que cette admiration s'est développée. C'est éclatant dans ses questions sur l'encyclopédie, son dernier chef-d'œuvre, qui est paru à titre posthume et qui vient d'être magnifiquement réédité dans la collection Bouquins chez Laffont. Je profite pour le signaler. On voit très bien à l'entrée Alcoran, à l'entrée Mahomet, à quel point, en fait, il est porté à défendre son image contre tous ceux qui tendraient à l'altérer.
Oui, il va finalement, il avait bien lu Boulainvilliers, il avait aussi lu, quand il était à Londres, la traduction du Coran en anglais de George Sale, qui écrit une longue introduction dans laquelle il présente Mahomet à peu près de la même manière que Stubb et que Boulainvilliers, comme un grand héros anticlérical, un grand homme d'État et législateur. Et donc finalement, pour Voltaire, il s'agit toujours d'instrumentaliser l'islam et son prophète, mais il dit que finalement, pour bien écraser l'infâme, pour attaquer le fanatisme catholique, mieux vaut présenter le prophète de l'islam comme un grand héros anticlérical.
Alors maintenant, je voudrais que nous en venions à un autre chapitre de cette histoire de Mahomet tel qu'il a été vu en Occident. Mahomet, décidément, qui a connu beaucoup d'avatars au sens propre, qui est vraiment multiforme. Je voudrais que nous attardions un instant sur un des chapitres les plus intéressants de votre livre, John Toland. C'est le moment de Mahomet, qu'on pourrait dire juif, le prophète vu par le monde ashkénaze au XIXe siècle. Et là encore, d'une certaine façon, instrumentalisé.
Absolument. Alors, il faut essayer de situer ça dans le contexte du monde ashkénaze du XIXe siècle. Le XIXe siècle qui a vu plusieurs bouleversements. D'abord, l'émancipation légale, c'est-à-dire à commencer avec les révolutions américaines et françaises, et ensuite un peu partout en Europe, les Juifs ont atteint l'égalité légale, les mêmes droits que n'importe quel autre citoyen ou sujet dans la plupart des États. Mais évidemment, ça n'a pas éradiqué l'antisémitisme, loin s'en faut. Et donc, les Juifs de l'Europe centrale sont traversés par des mouvements contradictoires, donc une liberté inouïe, recrudescence d'antisémitisme et division au sein des communautés juives entre, bon, pour simplifier, un camp de traditionnistes et un camp de réformateurs qui veulent moderniser le judaïsme et qui sont inspirés, on peut parler d'un d'entre eux, notamment Abraham Geiger, qui est au milieu donc du 19e siècle, un des grands rabbins du mouvement réformateur, et qui écrit une thèse qui s'appelle « Qu'est-ce que Mahomet a pris des Juifs ?» où il étudie le Coran, il compare le Coran avec notamment des textes rabbiniques, et il affirme qu'il y avait beaucoup de points communs. Et pour lui, c'était pas du tout négatif, comme pour d'autres polémistes chrétiens et juifs avant. Le fait que Mahomet s'est inspiré de la sagesse juive, c'était au contraire pour lui tout à fait positif.
Un des éléments, c'est le rappel de ce moment à l'Andalus où il y aurait eu ce qui apparaît comme un paradis perdu, séfarade, c'est-à-dire le moment de l'Espagne du Sud sous domination arabe, mais en fait tolérant juifs et chrétiens.
Oui, et ce mythe qui a longue histoire devant lui est créé en quelque sorte au XIXe siècle par ces juifs ashkénazes. Et ça sert d'une certaine manière à les aider à imaginer donc un passé idéalisé. Et aussi, ça donne en quelque sorte un argument contre les antisémites. Parce que les antisémites d'Europe leur disent, vous ne pouvez pas intégrer, vous assimiler à la culture européenne parce que vous êtes différent. Et à eux, les juifs ashkénazes disent, regardez ce qu'on a fait dans le monde musulman, à Bagdad, en Andalous, etc. Il y avait une floraison de la civilisation musulmane avec la participation des juifs, floraison aussi de la culture juive. Et donc, si on n'arrive pas à nous intégrer en Europe, c'est votre faute, c'est la faute du christianisme qui est fondamentalement anti-juive.
On a un peu exagéré, on le sait aujourd'hui, l'harmonie qui régnait dans cette Al-Andalus. Mais l'important pour nous, c'est qu'on l'a cru à ce moment-là. D'ailleurs, le grand poète Heinrich Heine a fait en 1823 un poème, a écrit un poème qui s'appelait Almansor, dont je vous lis deux strophes, et qui sont en effet tout à fait représentatives de cet état d'esprit, de cette nostalgie. Et voilà le poème. En haut de la tour où le muezzin appelait jadis à la prière, résonne des cloches de l'église le bourdon mélancolique. En haut des marches où les croyants chantaient les paroles du prophète, miment aujourd'hui les tonsurés le morne mystère de leur messe.
Tout à fait. Heine, de ce poème, exprime sa sympathie pour les musulmans déchus dans ce qui est serait pour lui la fin de cet âge d'or qui prend fin effectivement brutalement en 1492. Et cette image, cette nostalgie, on le voit à travers des poètes comme Heine. On voit aussi dans l'architecture, parce que si vous allez par exemple à Budapest, il y a la synagogue de Rudohany qui est de style néo-mauresque. C'est-à-dire que vous avez l'impression d'être devant une mosquée plutôt que d'une synagogue. Et en fait, il y avait des synagogues comme ça partout. En Europe centrale au XIXe siècle, à Leipzig, à Vienne, à Berlin et ailleurs, évidemment la plupart d'entre elles détruites ensuite par les nazis. Mais à Budapest, on peut le visiter encore.
Alors vous le disiez, un autre aspect important de cette évolution, de ce mouvement intellectuel dans le monde ashkénaze, on le voit dans l'œuvre en particulier de Goldsier, un autre fondement, c'est l'idée que le prophète s'est puissamment abreuvé dans les sources du judaïsme.
Tout à fait. Et pour Goldsier, qui était donc un juif réformé...
Il a vécu entre 1850 et 1921, donc au tournant du 19e et du 20e siècle.
Et jeune étudiant, il avait passé 2 ans en Orient, notamment à Damas et au Caire. Il avait rencontré des jeunes musulmans réformistes du mouvement de Nahda, c'est un mouvement de réforme de l'islam et le mouvement anti-impérial, donc qui se battait contre l'Empire britannique et le colonialisme français.
Une renaissance arabe à propos de laquelle on peut rêver, que serait-il passé s'il avait réussi, mais c'est une autre question.
Oui, et donc il voit en cet islam réformé un modèle pour la réforme du judaïsme européen. Donc, il décrit avec émotion ses apprentissages. Il était le premier européen non musulman à étudier à l'université d'Al-Azhar, au Caire. Il lit le Coran, il est ému, on a l'impression qu'il va se convertir, mais en quelque sorte, il reste juif tout en étant de sympathie et de dévotion musulmane.
Il dit quasiment qu'il se veut simultanément juif et musulman.
Tout à fait. Mais ensuite, il rentre à Budapest, il travaille dans cette fameuse synagogue mauresque, il refuse de nombreuses invitations à devenir professeur dans des universités prestigieuses partout en Europe, aux États-Unis et à la nouvelle université hébraïque de Jérusalem. Il refusait parce qu'il était foncièrement anti-sioniste. Il était hongrois et nationaliste hongrois. Et donc, il a finalement devenu professeur à Budapest et un des grands spécialistes de l'islam et notamment des hadiths.
Et il se bat farouchement contre l'antisémitisme d'Ernest Renan.
Oui, Ernest Renan affirmait que les Indo-Européens étaient polythéistes à l'origine et donc pouvaient imaginer plusieurs vérités, plusieurs possibilités, alors que les sémites monothéistes manquaient de mythologie et donc manquaient de réflexion qui pouvait mener à la philosophie et la science.
Renan écrit dans son Histoire générale et système comparé des langues sémitiques, il écrit, écoutez cette phrase, « Je suis le premier à reconnaître que la race sémitique, comparée à la race indo-européenne, représente réellement une combinaison inférieure de la nature humaine. » Voilà bien qui était fait pour heurter notre Goldseer.
Donc oui, Goldseer...
Plus que heurté.
Plus que heurté. Goldseer, juif, et comme on a dit, presque musulman, grand spécialiste de religion, n'avait pas de mal à réfuter Renan et montrer qu'il y avait de la mythologie chez les juifs et chez les musulmans. Il a écrit un livre sur ce sujet qu'il a envoyé à Renan. Renan a écrit une très gentille lettre pour le remercier. Il dit, si jamais vous êtes à Paris, vous êtes le bienvenu. Ensuite, Goldseer est passé avec sa femme. Ils ont été reçus très gentiment par les Renan. Mais Renan n'a jamais pris en considération les critiques de Goldseer. Goldseer n'était même pas sûr qu'il l'avait lu. Et donc, après la mort de Renan, il écrit un livre sur Renan comme orientaliste, où il fait à la fois les louanges de la grande érudition de l'orientaliste, mais aussi des vives critiques sur certaines de ses idées.
Parce que votre personnage, notre personnage, Goldseer, insiste beaucoup sur les origines juives de l'islam. Et ça, c'est un élément très important, une sorte presque jusqu'au syncrétisme.
Oui, pour lui, l'islam s'inspire de ce qui est le meilleur judaïsme, que le judaïsme et l'islam sont très proches l'un de l'autre, et que, au contraire, c'est le christianisme qu'il vilipendait, parce que le christianisme avait inventé des légendes, notamment de meurtres rituels à l'encontre des juifs.
Alors venons-en maintenant, venons-en au XIXe siècle, qui est également très intéressant quand on s'attache à rappeler ce qu'a pu être l'évolution de l'image de Mahomet en Occident. Et commençons par donner à entendre une déclaration de Bonaparte lors de la campagne d'Égypte en 1799. C'est une lecture de Jean Bollery dans Les Chemins de la Connaissance, le 25 février 1991. Vous allez voir que ce propos peut surprendre.
Est-il un homme assez aveugle pour ne pas voir que le destin lui-même dirige toutes mes opérations? Y aurait-il quelqu'un d'assez incrédule pour révoquer en doute que tout, dans ce vaste univers, est soumis à l'empire du destin? Faites connaître au peuple que depuis que le monde est monde, il était écrit qu'après avoir détruit les ennemis de l'islamisme, fait abattre les croix, je viendrai du fond de l'Occident remplir la tâche qui m'a été imposée. Faites voir au peuple que dans le saint livre du Coran, dans plus de 20 passages, ce qui arrive a été prévu et ce qui arrivera est également expliqué. Je pourrai demander compte à chacun de vous des sentiments les plus secrets du cœur, car je sais tout, même ce que vous n'avez dit à personne. Mais un jour viendra que tout le monde verra avec évidence que je suis conduit par des ordres supérieurs et que tous les efforts humains ne peuvent rien contre moi. Heureux ceux qui, de bonne foi, sont les premiers à se mettre avec moi.
Au même moment, Bonaparte adresse une missive au peuple égyptien où il lui dit « Égyptien, on vous dira que je viens pour détruire votre religion. C'est un mensonge, ne le croyez pas. Répondez que je viens vous restituer vos droits, punir les usurpateurs, que je respecte plus que les Mamelouks, Dieu, son prophète Mahomet et le glorieux Coran. » Et un peu plus tard, devenu premier consul, il déclare au Conseil d'État « C'est en me faisant catholique que j'ai gagné la guerre en Vendée, en me faisant musulman que je me suis établi en Égypte, en me faisant ultramontain que j'ai gagné les esprits en Italie, si je gouvernais un peuple juif, je rétablirais le temple de Salomon. » Alors, était-il sincère ou exclusivement habile?
Peut-être les deux à la fois, parce que, comme dit Juan Cole, qui est un historien américain qui a écrit un livre récent sur Napoléon en Égypte, Napoléon était le premier à croire sa propre propagande. Et effectivement, elle arrive en Égypte, elle avait lu dans le bateau la traduction du Coran de Claude-Étienne Savary, avec une préface dans laquelle il présente le prophète comme un grand homme d'État et grand général. Et je pense que Napoléon se voyait comme un nouveau Mahomet, et il n'était pas le seul à faire la comparaison entre lui-même et le prophète. Et il arrive avec cette idée de l'islam qu'on vient de voir, qu'on trouve au XVIIIe siècle, que l'islam serait le monothéisme pur et rationnel. Et donc, il pensait que lui, plus ou moins déiste, pouvait être accepté comme musulman. Il va même jusqu'à demander aux oulémas du Caire de prononcer la prière de vendredi en son honneur. Ils disent « Bien volontiers, vous avez que vous convertir à l'islam. » Elle dit « Oui, mais je suis déjà plus ou moins musulman. Il y a juste le petit problème, et mon armée aussi, il y a juste le petit problème de circoncision. Ils sont vieux, ils ne veulent pas le faire, et bon, ils aiment beaucoup leur vin. Est-ce que vous pourriez faire une petite exception à la règle ?» Et les ulémas répondent diplomatiquement « On va voir, on va réfléchir. »
Vous citiez Claude-Étienne Savary. Sa traduction du Coran en 1783, la biographie très positive qu'il a jointe à cette traduction a beaucoup influencé les esprits et les cœurs de la génération qui a suivi. Il écrivait, vous voyez comme on est loin d'un certain nombre d'auteurs que nous évoquions tout à l'heure, John Tolan, Savary écrit « Mahomet fut un de ces hommes extraordinaires qui, nés avec des talents supérieurs, paraissent de loin en loin sur la scène du monde pour en changer la face et pour enchaîner les mortels à leur char. Lorsque l'on considère le point d'où il est parti, le fait de grandeur où il est parvenu, on est étonné de ce que peut le génie humain favorisé par les circonstances. » On comprend que ce texte est beaucoup plus à Bonaparte.
Absolument. J'aime imaginer Bonaparte qui lit ce texte dans le bateau qui le mène en Égypte et qui imagine qu'il va avoir le même succès.
Alors il y a une fameuse entrevue, un fameux entretien entre Goethe et Bonaparte, devenu Napoléon, devenu l'empereur, en octobre 1805, après la victoire de celui-ci sur les Autrichiens, à Ulm. Cet entretien est intéressant. Il communie l'un et l'autre de l'admiration de Mahomet.
Goethe était obligé, pour un mécène, à traduire la fameuse pièce de Voltaire en allemand. Et quand Napoléon apprend ça, il dit « Mais c'est une très mauvaise pièce, parce que Voltaire avait pris ce grand homme, Mahomet, un homme qui a changé la face de l'histoire et a fait de lui un petit criminel digne au plus du gibet. » Mais ce n'est pas étonnant parce que Voltaire est un petit esprit qui ne comprenait pas les grands hommes.
Alors le ton est donné et la plupart des poètes, des auteurs de l'époque romantique sont extrêmement favorables à Mahomet dans la ligne d'un célèbre poème de Victor Hugo tiré de la légende des siècles. Mahomet ne pouvait pas échapper à l'attention et à l'art de Victor Hugo. Un fameux poème qui s'appelle « L'an neuf de l'Égire », la légende des siècles, vous savez, remonte à 1859, un grand poème de l'exil, lu par Jean Crémieux dans les Lundis de l'Histoire de Jacques Le Goff sur France Culture, le 29 avril de l'an de grâce 1968.
Comme s'il pressentait que son heure était proche, grave, il ne faisait plus à personne un reproche. Il marchait en rendant aux passants leur salut. On le voyait vieillir chaque jour, quoiqu'il eût à peine 20 poils blancs à sa barbe encore noire. Il s'arrêtait parfois pour voir les chameaux boire, se souvenant du temps qu'il était chamelier. À 63 ans, une fièvre le prit. Il relut le Coran de sa main même écrit, puis il remit au fils de Séide la bannière, en lui disant « Je touche à mon aube dernière, il n'est pas d'autre Dieu que Dieu. Combat pour lui. » Et son œil, voilé d'ombre, avait ce morne ennui d'un vieux aigle forcé d'abandonner son air. Il vint à la mosquée à son heure ordinaire, appuyé sur Ali, le peuple le suivant, et l'étendard sacré se déployait au vent. Là, pâle, il s'écria, se tournant vers la foule, « Peuple, le jour s'éteint, l'homme passe et s'écoule, la poussière et la nuit, c'est nous, Dieu seul est grand. Peuple, je suis l'aveugle et je suis l'ignorant. Sans Dieu, je serai vil plus que la bête immonde. Quand même, se ruant sur moi, mes ennemis auraient pour m'attaquer dans cette voie étroite, le soleil à leur gauche et la lune à leur droite, ils ne me feraient point reculer. C'est ainsi qu'après avoir lutté 40 ans, me voici arrivé sur le bord de la tombe profonde. Et j'ai devant moi Dieu, derrière moi le monde. Quant à vous qui m'avez dans l'épreuve suivi, comme les Grecs Hermès et les Hébreux Lévi, vous avez bien souffert, mais vous verrez l'aurore. Après la froide nuit, vous verrez l'aube éclore. » La foule s'écartait muette à son passage. Il se lava la barbe au puits d'Aboulfeïa. Un homme réclama 3 drachmes, qu'il paya, disant « Mieux vaut payer ici que dans la tombe. » L'œil du peuple était doux comme un œil de colombe en regardant cet homme auguste, son appui. Tous pleuraient. Quand, plus tard, il fut rentré chez lui, beaucoup restèrent là sans fermer la paupière et passèrent la nuit couchés sur une pierre. Le lendemain matin, voyant l'aube arriver, « Abou Bekr, dit-il, je ne puis me lever. Tu vas prendre le livre et faire la prière. » Et sa femme Aïcha se tenait en arrière. Il écoutait pendant qu'Abou Bekr lisait, et souvent à voix basse achevait le verset. Et l'on pleurait pendant qu'il priait de la sorte. Et l'ange de la mort, vers le soir, à la porte apparut, demandant qu'on lui permît d'entrer. Qu'il entre. On vit alors son regard s'éclairer de la même clarté qu'au jour de sa naissance. Et l'ange lui dit « Dieu désire ta présence. » « Bien, dit-il, un frisson sur ses tempes courut. Un souffle ouvrit sa lèvre et Mahomet mourut. »
On peut imaginer aujourd'hui John Tolan, Victor Hugo contemporain, ça veut dire cette imagination rencontre l'impossible. Enfin, pourrait-on imaginer un grand poète saluer de la sorte Mahomet?
Difficile à imaginer, c'est Alain Crash qui m'a posé la même question. Je connais ce poème grâce à lui.
C'est un journaliste proche du monde diplomatique.
Tout à fait. Et la réponse, évidemment, non. La question, pourquoi? Alors d'abord, nous ne sommes plus au 19e siècle, évidemment.
Qu'est-ce que cela nous dit de nous?
Alors, ça nous dit certaines choses de nous et certaines choses du 19e siècle. Victor Hugo, comme aussi on pourrait citer Alphonse de Lamartine, admirait le prophète et admirait la spiritualité du prophète. Ce n'était plus comme pour Napoléon qu'un homme d'État, mais c'était un homme, on le voit très bien dans l'extrait qui vient d'être lu, d'une simplicité et d'une pureté, d'une sagesse et d'une piété exemplaire.
Et pourquoi est-ce que ce serait anachronique aujourd'hui?
D'abord, là, au 19e siècle, c'était des auteurs de tradition catholique pour qui le catholicisme de leur époque avait perdu un peu de sa ferveur et sa simplicité, et ils voyaient dans l'islam primitif comme une piété plus pure. Alors aujourd'hui, évidemment, on est dans un contexte où déjà faire les louanges d'un homme ou d'une femme religieuse, c'est plus problématique qu'autrefois, dans un contexte de laïcité, un contexte parfois d'hostilité aux religieux. Mais c'est aussi le problème particulier avec la figure du prophète, c'est qu'il était accaparé par deux parties. D'abord, une partie piétiste musulman qui affirme que personne qui n'est pas musulman a le droit d'en parler, et certains, une petite minorité certes d'entre eux, mais qui sont les auteurs des violences qu'on connaît.
Si cela était écouté, nous n'aurions aucun des auteurs que nous avons cités au cours de notre conversation, John Tolan.
Non, c'est sûr. Et il y a aussi, donc, de l'autre côté, il y a les personnes d'extrême droite, comme Geert Wilders, que vous avez cité tout à l'heure, qui continuent à manipuler de manière cette caricature négative du prophète.
Sur cette question intéressante de l'anachronisme qu'il y aurait à transporter ces jugements ou ces regards des poètes du XIXe siècle aujourd'hui, on peut citer Lamartine, que vous venez d'évoquer, qui est lui-même l'auteur d'une biographie de Mahomet, en 1865. Vous savez, à l'époque où, à la fin de sa vie, Lamartine était obligé des travaux de librairie pour pouvoir gagner sa vie. Et à propos de Mahomet, il écrit « Un homme destiné à réussir n'est jamais que le résumé vivant d'une inspiration commune dans l'esprit de son temps. » De son temps, il le devance un peu, et c'est pourquoi on le persécute, mais il l'exprime, et c'est pourquoi on le suit. Je trouve que c'est un propos éclairant.
Tout à fait.
Si on en vient maintenant au XXe siècle, il y a un aspect de Mahomet en Occident qui n'est pas toujours évoqué, mais qui est mis en valeur aux États-Unis, c'est le législateur. Le législateur, une sorte de Périclès arabe.
Oui, on voit ça notamment dans la Cour suprême à Washington, un bâtiment qui était construit en 1935. Et dans la chambre centrale, il y a une grande frise qui fait toute la tour de la chambre où il y a une succession de 18 grands législateurs de l'histoire. Ça commence avec Hammurabi dans la Babylone antique et ça va jusqu'au juge John Marshall, donc de la Cour suprême américaine au XXe siècle.
Mahomet est là. Il est d'ailleurs, on a l'impression qu'il sort d'un studio de Hollywood.
Oui, tout à fait. Il est là, habillé à l'arabe, avec le Coran dans une main, l'épée dans l'autre. Il est entre Justinien et Charlemagne, parce que ces législateurs ont eu la gentillesse de s'aligner en ordre chronologique. Et donc, pour moi, ça montre comment, donc, dans l'esprit de l'artiste,
Adolf Weinmann,
donc un sculpteur américain d'origine allemande, pour qui, en quelque sorte, la justice américaine était la synthèse de toutes ces grandes figures, de grands législateurs qui allaient de Hammurabi au juge du Cour suprême du XXe siècle, en passant par Confucius, par Mahomet, par Charlemagne et par bien d'autres.
Mahomet est déjà présent, ce n'est pas très connu, c'est pourquoi j'y insiste, à la Cour d'appel de New York, avec une statue qui remonte à 1905 du sculpteur Charles Albert Lopez, et où il est également en turban, en grande robe, avec une longue barbe. L'histoire des statues comme exprimant et portant les sensibilités politiques et affective des différentes périodes, c'est un sujet immense et passionnant.
Oui, tout à fait. Cette statue a été enlevée parce que les ambassadeurs, donc je pense que c'était les Saoudiens et Égyptiens, se sont plaints en disant qu'il n'était pas correct de faire une représentation figurée du prophète. Et donc, la statue a été retirée. Et
on peut ajouter qu'à figurer longtemps, dans la cour d'appel de New York, une autre statue de Charles Albert Lopez, qui est également habillé avec une grande robe, un turban.
Oui, tout à fait.
Eh bien, nous voilà survenus au cœur du XXe siècle, John Tolan, et nous retrouvons notre historien Watt que nous faisions entendre tout à l'heure. Peut-être peut-on noter qu'il est rejoint par d'autres savants éminents qui parlent pour leur époque.
Watt, le pasteur protestant, a fait connaissance avec Louis Massignon, le grand orientaliste, grand professeur au Collège de France. Ils ont lié une amitié parce qu'ils étaient, entre autres, tous les deux mus par ce même désir de dialogue avec l'islam. Et ils étaient tous les deux convaincus que leurs églises respectives devaient reconnaître Mohammed comme prophète. Comme, donc, il y avait d'autres figures catholiques, on pourrait citer Hans Küng, présent, ce grand théologien suisse, présent au Vatican II, pour qui les déclarations de Vatican II en faveur d'un rapprochement avec l'islam n'allaient pas assez loin parce qu'il aurait fallu reconnaître Mahomet comme prophète.
Grand débat du Concile sur la liberté religieuse.
Tout à fait.
Il a néanmoins été très influent à ce moment-là. Merci beaucoup, John Tolan, de nous avoir aidé à comprendre l'histoire de l'Europe devant Mahomet, avec de longues périodes de haine et donc de distance, et d'autres de compréhension, d'intérêt pour Mahomet et d'intérêt pour les combats menés en Occident auxquels on le fait servir.
Merci à vous, Jean-Noël Jeannonet.
Vous avez donc écrit ce livre important et qui a été à la base de notre conversation, Mahomet l'Européen, histoire des représentations du prophète en Occident, paru tout récemment chez Albin Michel. Deux autres de vos livres appellent également que je les cite. D'abord, un livre consacré, nous n'en avons pas parlé, mais chacun vous lira, de la rencontre entre François d'Assise et l'islam. Le saint chez le sultan. Et vous sous-titrez 8 siècles d'interprétation. 8 siècles, on comprendra pourquoi nous n'avons pas pris le loisir de résumer cela. C'est un livre qui est paru au Seuil en 2007. Et puis, je vous avais reçu il y a déjà bien longtemps pour parler d'un autre livre qui s'appelait « Les Sarrasins, l'islam dans l'imagination européenne au Moyen-Âge », au biais 2003. C'est un livre qui a été réédité en 2006. Vous avez, me dites-vous, un projet stimulant en cours sur le Coran et la culture européenne ?
Oui, tout à fait, financé par le Conseil européen de la recherche, un grand projet que j'amène à Nantes avec des collègues aussi à Madrid, Naples et Canterbury, sur la place du Coran dans la culture européenne entre le 12e et le début du 19e siècle.
Je viens enfin de recevoir un livre qui me paraît important, que je n'ai pas encore eu le temps de lire de près, de François Desroches, professeur au Collège de France, consacré au Coran, le Coran, une histoire plurielle, essai sur la formation du texte coranique.
C'est un riche résumé de ses travaux des dernières décennies, et donc c'est un grand spécialiste du Coran au Collège de France.
La vérité du message s'accommoderait, nous explique-t-il, de variations dans la formulation, et ce n'est pas la position d'un certain nombre des docteurs, une partie des docteurs de la foi musulmane.
Non. Le dogme musulman est multiforme.
Vous pourrez trouver une bibliographie complète sur notre site, plus riche encore, elle est riche, ainsi que les références des documents sonores que nous avons utilisés, et vous pourrez écouter, réécouter et podcaster cette émission. Samedi prochain, vais-je vous surprendre ? Nous parlerons, nous poserons la question suivante, Babar est-il immortel ? Babar l'éléphant. Et j'inviterai Isabelle Chevrel à en parler. Lundi matin, vous retrouverez à 9h la Fabrique de l'Histoire d'Emmanuel Laurentin qui consacrera sa semaine aux grandes épopées. J'imagine qu'il y aura beaucoup de coups d'épée. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet préparée par Jeanne Guéroux, réalisée par Yaël Mandelbaum, avec à la prise de son Pierre Monteil, à la discothèque Nathalie Rouvillain. Pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel, Gwen Michel. Et puis je voudrais spécialement, une fois de plus, remercier la bibliothèque et la documentation de Radio France, dont le travail à notre appui est vraiment sans prix. Et dans quelques instants, vous allez retrouver Christine Ockrent pour son émission hebdomadaire, comme la mienne, Affaires étrangères.